Daphnis et Chloé, livre 3. Mais les Mytiléniens, apprenant comme ceux de Métimne avaient envoyé 10 galères à leur dommage, et mêmement étant informés par gens qui venaient de la campagne, comme on avait couru leurs terres et pillé leurs biens, estimèrent que ce serait lâcheté d'endurer un tel outrage des Métiméniens, et délibérèrent promptement prendre les armes contre eux. S'ils levèrent un continent, 3 000 hommes de pied et 500 chevaux, et envoyèrent par terre leur capitaine général Hippas, craignant de les mettre sur mer en temps approchant de l'hiver. Le capitaine partit aussitôt avec ses gens, ne fourragea point les terres des Métimniens, ni n'emmena le bétail des laboureurs et paysans, parce qu'il estimait cela être le fait d'un larron et non pas d'un capitaine. Ince tira droit vers la ville, espérant la surprendre les portes ouvertes et sans garde. Mais quand il en fut près environ 6 lieues, un héros lui vint au-devant qui lui demanda trêve au nom des Métimniens, car ayant entendu depuis par leurs prisonniers que ceux de Mytilène ne savaient du tout rien de ce qui s'était passé, mais que c'était une querelle entre paysans et jeunes gens, où ceux-ci avaient eu des coups pour quelque insolence par eux faite, il regrettait fort d'avoir, si à la légère, offensé leurs voisins, et n'avait autre désir que de rendre restitués ceux qui auraient été pris pour pouvoir trafiquer et hanter comme devant les uns avec les autres sans crainte ni danger. Hippas envoya le héros porter ses paroles au sénat des Mytiléniens, combien qu'il eût tout pouvoir et autorité absolue, et cependant alla camper à 2 000 lieues de Métimne, attendant les ordres de sa ville. De là à 2 jours, ordre lui vint de recevoir les restitutions et s'en retourner sans faire nul dommage. Car ayant le choix de la paix ou de la guerre, ils avaient pensé que la paix valait mieux. Ainsi se termina la guerre entre Métimne et Mytilène, finie comme elle fut commencée par soudaine résolution. Et là-dessus survint l'hiver, plus fâcheux que la guerre à Daphnis et à sa Chloé. Car un continent la neige, tombant en grande abondance, couvrit les chemins et enferma les laboureurs en leurs maisons. Les torrents impétueux tombaient à val du haut des montagnes, l'eau se gelait, les arbres semblaient morts, on ne voyait plus la terre sinon alentour des fontaines et de quelques ruisseaux. Ainsi ne se pouvaient plus mener les bêtes au champ, ni n'osaient les gens mettre seulement le nez hors de la porte, mais demeurant tous au logis, faisaient un grand feu, alentour duquel, dès que les coqs avaient chanté le matin, chacun venait faire sa besogne. Les uns retordaient du fil, les autres tissaient du poil de chèvre, ou faisaient des collets à prendre les oiseaux. Le soin qu'il fallait alors avoir des bœufs était de leur donner de la paille à manger en la bouverie, aux chèvres et brebis de la feuillée en la bergerie, aux pourceaux de la faine et du gland en la porcherie. Étant ainsi, chacun contraint de garder la maison pour la rudesse du temps, les autres, tant laboureurs que pasteurs, en étaient aises, parce qu'ils avaient un peu de relâche en leurs travaux, faisaient bon repas et longs sommes, tellement que l'hiver leur semblait plus doux que, non pas l'été ni l'automne, ni le printemps avec. Mais Daphnis et Chloé, se souvenant des plaisirs passés, comme ils s'entrebaisaient, comme ils s'embrassaient, de leur joyeux passe-temps émis ses champs et ses prairies, toute nuit soupiraient en grand-peine, sans pouvoir dormir, attendant la saison nouvelle ne plus de moins qu'une seconde vie après la mort. Chaque fois qu'ils trouvaient sous leurs mains la panetière dont ils soulaient tirer leur manger, cela leur mettait deuil au cœur. Apercevant la sébile où ils étaient coutumiers de boire l'un après l'autre, ou bien la flûte qui était un don d'amourette jetée à terre quelque part sans que l'on en tînt compte, cela renouvelait leurs regrets. Si priaient aux nymphes et à Pan qu'ils les délivrassent de ces maux, et leur remontrasse enfin à eux et à leurs bêtes le soleil beau et clair, et quand Écan, faisant ses prières aux dieux, cherchait quelque invention par laquelle ils se pussent entrevoir. Chloé de soi n'y eût su que faire, et aussi n'avait guère moyen, car celle qu'on estimait sa mère était tout le jour après elle, lui montrant à carder la laine et à tourner le fuseau, et lui parlant de la mariée. Mais Daphnis, comme celui qui avait plus de loisirs et plus de sens aussi que la fillette, trouva pour la voir une telle finesse. Devant le logis de Dryas, tout contre le mur de la cour, étaient deux grands myrtes et un lierre. Les myrtes, bien près l'un de l'autre et quasi joints par le pied, tellement que le lierre, les embrassant tous deux et s'étendant en guise de vigne sur l'un et sur l'autre, il faisait une manière de loge fort couverte, tant les feuilles étaient épaisses et tissues, s'il faut ainsi dire, les unes avec les autres. Par-dedans pendaient force grappes noires, comme raisins à la treille, à l'occasion de quoi il y avait toujours, mêmement l'hiver, grande multitude d'oiseaux, qui dès lors ne trouvaient rien ailleurs, force merles, force grives, force ramiers, force bisets, et de tous autres oiseaux aimant à manger grains de lierre. Daphnis sortit de la maison, sous couleur d'aller tendre à ses oiseaux, ayant plein son bissac de foisse et de gâteaux au miel, et portant aussi, afin qu'on le crût mieux, de la glu et des collets. La distance de l'une des maisons à l'autre était d'environ 2 000 lieues, et la neige, non encore durcie par le froid, lui fait avoir bien de la peine, n'eût été qu'amour passe-partout, et franchit le feu, l'eau, la neige, voire même celle de la city. Daphnis fit le chemin tout d'une course, et arrivé devant la demeure de Dryas, secoua la neige qu'il avait aux pieds, tendit ses collets, englua de longues verges, puis se mit en aguet là auprès, épiant quand viendraient les oiseaux, et, à l'aventure, Chloé. Or, quant aux oiseaux, il en vint grande compagnie, et en prit tant qu'il avait assez à faire à les ramasser, à les tuer et plumer, mais de la maison ne sortait personne, homme ni femme, ni coq, ni poule. Ainsi se tenaient tous au-dedans clos, et quoi, au flanc du feu, dont le pauvre Daphnis était en grand émoi d'être venu si mal à point et à heure si malheureuse. Si osa bien penser de trouver un prétexte pour tout droit entrer séant, mais discourant en lui-même quelle couleur serait la plus croyable. Je viens quérir du feu. Comment, n'avez-vous point de plus proche voisin? Je demande du pain. Peut-on bissac est plein de vivres? Du vin. Mais il n'y a que 3 que vous avez fait vendange. Le loup m'a poursuivi. Et où en est la trace? Je suis venu chasser aux oiseaux. Que ne t'en vas-tu donc après que tu n'en as assez pris? Je veux voir Chloé. Telle chose ne se pouvait bonnement confesser à un père et à une mère. Ainsi n'y avait-il pas une de toutes ces occasions-là qui ne porta quelques soupçons? Mieux vaut, disait-il, que je m'en aille. Je la reverrai au printemps. Non, cet hiver, puisque les dieux, comme je crois, ne veulent pas. Ayant fait en lui-même ses devis, et s'arrangea ce qu'il avait pris de grives et autres oiseaux, il s'en allait partir. Mais, comme si expressément amour eût eu pitié de lui, voici qu'il advint. Dryas et sa famille à table, le pain et la viande toutes prêtes, chacun entendait à boire et à manger, et cependant, un des chiens de la bergerie, voyant qu'on ne se donnait point de garde de lui, happa un lopin de chair et s'enfuit hors de la maison. De quoi Dryas, courroucé, pour autant mêmement que c'était sa part, prend un bâton et court après. En le poursuivant, il vint à passer au long de ce lierre où Daphnis avait tendu ses gluaux, et le vit, comme il chargeait déjà sa prise sur ses épaules, prêt à s'en retourner. Oh, et sitôt qu'il l'aperçut, oubliant et chair et chien, « Dieu te garde, mon fils » s'écria-t-il. Puis le vient accoler et baiser, le prend par la main et le mène en la maison. Quand ils se virent l'un l'autre, à peine qu'ils ne tombèrent tous deux, de grandesse qu'ils eurent. Ils se forcèrent toutefois de se tenir sur leurs pieds, s'entrappelèrent, se donnèrent le bonjour et se baisèrent, ce qui leur fut comme un étai et appui qui leur vint à point pour les en garder de tomber. Ayant ainsi Daphnis contre son espérance vu et davantage ayant baisé sa Chloé, s'assit auprès du feu et déchargea sur la table ses griffes et ses ramiers, contant à la compagnie comment, ennuyé de tant demeurer à la maison, il s'en était venu chasser aux oiseaux, et comment il n'en avait pris aucun avec des collets, d'autres avec des gluaux, ainsi qu'il venait au grain de lierre et de myrte. Ceux de la maison le louèrent grandement de son bon esprit, et le prièrent de manger à bonne chère ce que le matin leur avait laissé, commandant à Chloé qu'elle leur versât à boire, ce qu'elle fit bien volontiers, à tous les autres, premièrement, et puis à Daphnis, le dernier. Car elle faisait semblant d'être fâchée contre lui, de ce qu'étant venu si près, il s'en était voulu aller sans la voir ni parler à elle. Et néanmoins, avant que lui présentèrent à boire, elle but un trait en la tasse, puis lui bailla le demeurant, et lui, encore qu'il eût grand soif, but lentement et à longue haleine pour en avoir tant plus de plaisir. S'y fut tantôt la table vide de pain et chair, et l'or assis, ils lui demandèrent nouvelles de Myrtale et Lamon, disant qu'ils étaient bien heureux d'avoir un tel bâton de leur vieillesse. Dès quelle louange, Daphnis n'était pas mari, mêmement qu'on les lui donnait en présence de sa Chloé. Mais quand ils lui dirent qu'il le retenait ce jour et celui d'après, à cause qu'il devait le lendemain faire un sacrifice à Bacchus, peu s'en fallut qu'il ne les adorât au lieu de Bacchus. S'y tira de son bissac force gâteaux et des oiseaux qu'ils habillèrent pour le souper. Ainsi fut d'heure à chef le feu allumé, le vin tiré, la table dressée, et sitôt qu'il fut nuit close, se mirent à manger, après quoi ils passèrent le temps, partis à faire de plaisants contes, et partis à chanter jusqu'à ce que le sommeil leur vint. Et lors, ils s'en allèrent coucher. Chloé avec sa mère, Daphnis avec Dryas. Chloé n'eut autre bien la nuit que de penser à son Daphnis, qu'elle verrait le lendemain, tout le jour, et lui se repaissait d'une vaine volupté, tenant à grand heure de coucher seulement avec le père de sa Chloé. De sorte que, plus d'une fois, il l'embrassa et baisa, croyant en rêve, embrasser et baiser Chloé. Le lendemain, il fit un froid extrême et tira un vent de bise si âpre qu'il brûlait et perçait tout. Quand ils furent levés, Dryas sacrifia à Bacchus un chevreau d'un an, alluma un grand feu et apprêta le dîner. Ah donc, cependant que Napé entendait à cuire le pain et Dryas à faire bouillir le chevreau, Chloé et Daphnis, étant de loisir, sortirent tous deux de la maison et s'en allèrent sous le lierre, où ils dressèrent des collets, tendirent des gluaux et prirent encore grand nombre d'oiseaux en s'entrebaisant parmi continuellement et tenant tels propos amoureux. « Je suis venu pour toi, Chloé. Je sais bien, Daphnis. À cause de toi, belle, je tue ces pauvres oiseaux. Qu'est-il de nos amours? M'as-tu point oublié? Non, par les nymphes que je t'ai juré, dans cette grotte où nous nous reverrons dès que la neige sera fondue. Ah, Chloé, quelle est haute cette neige! Ne fondrai-je point moi-même avant elle? Ne te soucie, Daphnis, le soleil sera chaud, mais que vienne primevère. Ah, le fut-il déjà comme le feu qui brûle mon cœur? Badin, tu te moques de moi, mais tu me tromperas quelque jour. Oh non, ferai, par mes chèvres que tu m'as fait jurer. Ainsi que Chloé répondait en cette sorte à son Daphnis, ne plus ne moins que l'écho, Napé les appela. Ils s'y encoururent, portant avec eux leur prise bien plus grande que celle de la veille, et après avoir fait des libations à Bacchus, se mirent à manger, ayant sur leur tête des couronnes de lierre. Et à la fin, ayant bien repu et chanté l'hymne à Bacchus, renvoyèrent Daphnis, en lui garnissant très bien son bissac de pain et de chair, et s'ils lui rendirent ses griffes et ramiers, disant que, quant à eux, ils en prendraient bien toujours quand ils voudraient, tant que durerait l'hiver, et que les grappes ne faudraient aux lières. Ainsi se partit Daphnis, en les baisant tous premier que Chloé, afin que son baiser lui restât pur et net. Depuis, il y revint plusieurs fois par autre subtilité, de sorte que l'hiver ne se passa point du tout pour eux, sans quelque plaisir amoureux. Et sur le commencement du printemps, que la neige se fondait, la terre se découvrait et l'herbe dessous poignait, les bergers alors sortirent et menèrent leurs bêtes au champ. Mais devant tous, Daphnis et Chloé, comme ceux qui servaient eux-mêmes à un bien plus grand pasteur. Et d'abord s'en coururent tout droit aux nymphes dans la caverne, ensuite à Pan sous le pin, puis sous le chêne, où ils s'assirent en regardant paître leurs troupeaux et s'entrebaisant quant et quant. Puis allèrent chercher des fleurs pour en faire des couronnes aux dieux. Mais les fleurs à peine commençaient d'éclore, par la douceur du petit béat de Zéphyr qui les ranimait et la chaleur du soleil qui les entr'ouvrait. Toutefois encore trouvèrent-ils de la violette, des narcisses, du muguet, et autres telles premières fleurs que produit la saison nouvelle, dont ils firent des chapelets et en couronnèrent les têtes aux images, en leur offrant du lait nouveau de leurs brebis et de leurs chèvres, puis essayèrent à jouer un peu de leurs chalumeaux, comme s'ils eussent voulu provoquer les rossignols à chanter, lesquels leur répondaient de dedans les buissons, commençant petit à petit à lamenter encore Itys et recorder leur ramage qu'un long silence leur avait fait oublier. Et alors aussi les brebis bêlaient, les agneaux sautaient et se courbaient sous le ventre de leur mère, les béliers poursuivaient les brebis qui n'avaient point encore agnelé, et les ayant arrêtés, saillaient puis l'une puis l'autre. Autant en faisaient les boucs avec les chèvres, sautant à l'environ, combattant et se cossant fièrement pour l'amour d'elle. Chacun avait les siennes à soi, et gardait qu'autre ne fit tort à ses amours. Toute chose dont la vue aurait en des vieillards éteints rallumé le feu de Vénus, et trop mieux échauffait ces deux jeunes personnes qui, de longtemps inquiètes, pourchassant le dernier but du contentement d'amour, brûlaient et se consumaient de tout ce qu'ils entendaient et voyaient, cherchant quelque chose qu'ils ne pouvaient trouver, outre le baiser et l'embrasser. Mêmement Daphnis, qui, devenu grand et en bon point, pour n'avoir bougé tout l'hiver de la maison à ne rien faire, frissait après le baiser et était gros, comme l'on dit, d'embrasser, faisant toutes choses plus curieusement et plus hardiment que par avant, pressant Chloé de lui accorder tout ce qu'il voulait et de se coucher nu à nu avec lui plus longuement qu'il n'avait accoutumé. Car il n'y a, disait-il, que ce seul point qui nous manque des enseignements de Philétas pour la dernière et seule médecine qui apaise l'amour. Et Chloé, lui demandant ce qu'il y pouvait avoir outre à se baiser, s'embrasser et se coucher tout vêtu, et ce qu'il pensait faire plus quand il serait couché nu, cela, lui dit-il, que les béliers font aux brebis et les boucs aux chèvres. Vois-tu comment après cela les brebis ne s'enfuient plus, ni les béliers ne se travaillent plus à courir après, mais paissent tous les deux amiablement ensemble, comme étant l'un et l'autre assouvis et contents. Et doit bien être quelque chose plus douce que ce que nous faisons, et dont la douceur surpasse l'amertume d'amour. Et mais, dit-elle, vois-tu pas que les béliers et les brebis, les boucs et les chèvres, faisant ce que tu dis, se tiennent debout. Les mâles montent dessus, et les femelles soutiennent les mâles sur le dos. Et toi, tu veux que je me couche avec toi à terre et toute nue? Sont-elles donc pas plus vêtues de leur laine ou bien de leur poil que moi de ce qui me couvre? Il l'a cru, et comme elle voulut, se coucha près d'elle, où il fut longtemps, ne sachant comment faire pour venir à bout de ce qu'il désirait. Il la fit relever, l'embrassa par derrière en imitant les boucs, mais il s'en trouvait encore moins satisfait que devant. Si se rassit à terre et se prit à pleurer, de ce qu'il savait moins que les belins accomplir les œuvres d'amour. Or, y avait-il non guère loin de là un qui cultivait son propre héritage et s'appelait Chromis, homme ayant déjà passé le meilleur de son âge et étant tout à l'heure cassé. Il tenait avec lui certaines petites femmes, jeunes et belles et délicates, pour autant mêmement qu'elle était de la ville et avait nom Lycénion, laquelle, voyant passer tous les matins Daphnis, qui menait ses bêtes en pâture et le soir les ramenait au tecte, eut envie de s'accointer de lui pour en faire son amoureux, et tant le guetta qu'une fois le trouvant seulé, elle lui donna une flûte, une gaufre à miel et une panetière de peau de cerf. Mais elle n'osa lui rien dire, se doutant qu'il aimait Chloé parce qu'il était toujours avec elle. Et néanmoins, elle n'en savait autre chose, sinon qu'elle les avait vus sourire l'un à l'autre et se faire des signes. S'y fit entendre à Chromis un matin qu'elle s'en allait voir une sienne voisine en travail d'enfant, suivit les jeunes gens pas à pas et se cachant entre des buissons pour n'être point aperçu, vit de là tout ce qu'il faisait, entendit tout ce qu'il disait, et très bien sut remarquer comment et pour quelle cause pleurait le pauvre Daphnis, par quoi, ayant pitié de leur peine, et quand, considérant que double occasion de bien faire se présentait à elle, l'une de les instruire de leur bien, l'autre d'accomplir son désir, elle usa d'une telle finesse. Le lendemain, feignant d'aller voir sa voisine qui travaillait d'enfant, elle vient droit au chêne sous lequel était Daphnis avec Chloé, et, contrefaisant la marie troublée, « Alors, mon ami, dit-elle, Daphnis, je te prie, aide-moi. De mes 20 oiseaux, voilà un aigle qui m'emporte le plus beau. Mais parce qu'il est trop pesant, l'aigle ne l'a pu enlever jusque sur cette roche là-haut où est son air, mais est allé choir avec au fond du vallon, dedans ce bois ici. Oh, et pour ça, je te prie, mon Daphnis, viens-y avec moi, car toute seule j'ai peur, et m'aide à le recourir. Ne veuille souffrir que mon compte demain demeure imparfait. À l'aventure, pourras-tu bien tuer l'aigle même, qui ainsi ne ravira plus nos agneaux ni nos chevreaux, et Chloé, ce temps pendant, gardera vos deux troupeaux. Tes chèvres la connaissent aussi bien comme toi, car vous êtes toujours ensemble. » Daphnis, ne se doutant de rien, se leva incontinent, prit sa houlette dans sa main et s'enfuit avec Lycénion. Elle le mena loin de Chloé, dans le plus épais du bois, près d'une fontaine, où, l'ayant fait soir, « Tu aimes, lui dit-elle, Daphnis, tu aimes la Chloé. Les nymphes me l'ont dit cette nuit. Elles me sont venues, ces nymphes, compter en dormant les pleurs que tu faisais hier, et s'y m'ont commandé que je t'ôtasse de cette peine en t'apprenant l'œuvre d'amour qui n'est pas seulement baiser et embrasser, ni faire comme les béliers et bouquins. C'est bien autre chose, et bien plus plaisante que tout cela. Par quoi, si tu veux être quitte du déplaisir que tu en as, et trouver l'aise que tu y cherches, ne fais seulement que te donner à moi apprenti joyeux et gaillard, et moi, pour l'amour des nymphes, je te montrerai ce qui en est. » Daphnis perdit toute contenance, tant il fut aise, comme un pauvre garçon de village, jeune et amoureux. S'il se met à genoux devant Lycénion, la priant à lui montrer ce doux faire à Chloé ce qu'il désirait. main jointe de ton métier, afin qu'il pût, et comme si c'eût été quelque grand et merveilleux secret, lui promit un chevreau de lait, des fromages frais, de la crème, et plutôt la chèvre avec. A donc, le voyant Lycénion, plus naïf et plus simple encore qu'elle n'avait imaginé, se prit à l'instruire en cette façon. Elle lui commanda de s'asseoir auprès d'elle, puis de la baiser tout ainsi qu'ils avaient de coutume entre eux, et en la baisant de l'embrasser, et finalement de se coucher à terre au long d'elle. Comme il se fut assis, qu'il l'eut baisé, se fut couché, elle, le trouvant en état, le souleva un peu et se glissa sous lui, puis elle le mit dans le chemin qu'il avait jusque-là cherché, où chose ne fit qui ne soit en tel cas accoutumée, naturelle même, du reste, l'instruisant assez. Finie l'amoureuse leçon, Daphnis, aussi simple que devant, s'en voulut courir vers Chloé pour lui faire tout aussitôt ce qu'il venait d'apprendre, comme s'il eut peur de l'oublier. Mais Lycénion le retint et lui dit « Ah, il faut que tu saches encore ceci, Daphnis. C'est que comme j'étais déjà femme, tu n'as point fait mal à ce coup, car un autre homme, il y a déjà quelque temps, m'enseigna cela que je deviens t'apprendre et en eut mon pucelage pour son loyer. Mais Chloé, lorsqu'elle luttera cette lutte avec toi, la première fois elle criera, elle pleurera, et s'y saignera comme qui l'aurait tué. Mais n'aie point de peur, et quand elle voudra se prêter à toi, amène-la ici, afin que si elle crie, personne ne l'entende, et si elle pleure, personne ne la voit, et si elle saigne, qu'elle se puisse laver en cette fontaine. Et te souviens cependant que je t'ai fait homme premier que Chloé. » Après lui avoir donné ses avis, Lycénion s'en alla d'un autre côté du bois, faisant semblant de chercher encore son oison, et Daphnis, alors, songeant à ce qu'elle lui avait dit, ne savait plus s'il oserait rien exiger de Chloé outre le baiser et l'embrasser. Il ne voulait point la faire crier, car ce lui semblait acte d'ennemi, ni la faire pleurer, car c'eût été signe qu'elle eût senti mal, ou la faire saigner, car étant novice, il craignait ce sang, pensait être impossible qu'il sortît du sang, sinon d'une blessure. Six en revint du bois, en résolution de prendre avec elle les plaisirs accoutumés seulement, et venu à l'endroit où elle était assise, faisant un chapelet de violettes, lui controuva qu'il avait arraché des serres même de l'aigle, l'oison de Lycénion, puis l'embrassant, la baisa comme Lycénion l'avait baisé durant le déduit, car cela seul lui pouvait-il, à son avis, faire sans danger. Et Chloé lui mit sur la tête le chapelet qu'elle avait fait, et en même temps lui baisait les cheveux, comme sentant à son gré meilleur que les violettes. Puis lui donna de sa panetière à repaître du raisin sec et quelques pains, et souvent fois lui prenait de la bouche un morceau et le mangeait, elles, comme petits oiseaux, prennent la béquée du bec de leur mère. Ainsi qu'ils mangeaient ensemble, ayant moins de soucis de manger que de s'entrebaiser, une barque de pêcheurs parut, qui voguait au long de la côte. Il ne faisait vent quelconque, et était la mer fort calme, au moyen de quoi ils allaient à rames, et ramaient à la plus grande diligence qu'ils pouvaient, pour porter en quelque riche maison de la ville leurs poissons tout frais pêchés. Et ce que tous mariniers ont accoutumé de faire pour alléger leur travail, ceci le faisait alors. C'est que l'un d'eux chantait une chanson marine, dont la cadence réglait le mouvement des rames, et les autres, de même qu'en un chœur de musique, unissaient par intervalle leur voix à celle du chanteur. Or, tant qu'ils voguèrent en pleine mer, le son dans cette étendue se perdait, et la voix s'évanouissait en l'air. Mais quand ils vinrent à passer la pointe d'un écueil et entrer en une baie profonde en forme de croissant, on ouït bien plus fort le bruit des rames et bien plus distinctement le refrain de leur chanson, pour ce que le fond de la baie se terminait en un vallon creux, lequel, recevant le son, comme le vent qui s'entonne dedans une flûte, rendait un retentissement qui représentait à part le bruit des rames et la voix des chanteurs à part, chose plaisante à ouïr. Car, comme une voix venait d'abord de la mer, celle qui répondait de terre résonnait d'autant plus tard que plus tard avait commencé l'autre. Daphnis, qui savait que c'était de ce retentissement, ne regardait rien qu'en la mer et prenait singulier plaisir à voir la barque voguer vite comme volerait un oiseau, tâchant à retenir quelque chose de la chanson qu'il put jouer après sur sa flûte. Mais Chloé, n'ayant jamais ouï ce résonnement de la voix qu'on appelle écho, tournait la tête, tantôt du côté de la mer, lorsque les pêcheurs chantaient, tantôt vers le bois, cherchant qui leur répondait. Eux passés, tout se tut en la mer et dans le vallon. Et Chloé demandait à Daphnis si, derrière l'écueil, il n'y avait point une autre mer, une autre barque et d'autres rameurs qui chantassent. Il se prit doucement à sourire, et plus doucement encore la baisa, puis lui mettant sur la tête le chapelet de violette, commençait à lui conter la fable d'écho, lui demandant pour loyer de lui faire ce beau conte 10 autres baisers. S'il lui dit « Il y a, mamie, plusieurs sortes de nymphes. Les unes sont nymphes des bois, les autres des prés ou des eaux, toutes belles, toutes savantes, en l'art de chanter. Et fille d'une d'elles fut jadis écho, mortelle, pour ce qu'elle était née d'un père mortel, belle, comme fille de belle mère. Elle fut nourrie par les nymphes et apprise par les muses, qui lui montrèrent à jouer de la flûte, à former des sons sur la lyre et sur la cithare, et lui enseignèrent toutes sortes de chants. Si qu'étant déjà venue en la fleur de son âge, elle dansait avec les nymphes et chantait avec les muses. Mais elle fuyait les mâles, autant les dieux que les hommes, aimant la virginité. Pense Kouroussa contre elle, jaloux de ce qu'elle chantait si bien et dépité de ne pouvoir jouir de sa beauté. Il rendit furieux les pâtres et chevriers du pays qui, comme loups ou chiens enragés, se jetèrent sur la pauvre fille, la déchirèrent, chantant encore, et çà et là dispersèrent ses membres pleins d'harmonie. Terre les reçut en faveur des nymphes, conserva son chant, retint sa musique, et depuis, par le vouloir des muses, imite les voix et les sons, représente, ainsi que faisait la pucelle de son vivant, homme, dieu, bête, instrument, et pan, quand il joue de la flûte, lequel, entendant contrefaire son jeu, saute et court par les montagnes, non pour autre envie, mais cherchant où est l'écolier qui se cache et répète son jeu sans qu'il le voie ni connaisse. Daphnis, ayant fait ce conte, Chloé le baisa non seulement 10 fois, comme il avait demandé, mais beaucoup plus. Car écho redit, peu s'en faut, tout ce qu'il avait dit, comme pour témoigner qu'il n'avait point menti. La chaleur allait tous les jours de plus en plus augmentant, parce que le printemps finissait et l'été commençait. Et aussi avait-il de nouveaux passe-temps convenables à la saison d'été. Daphnis nageait dans les rivières, Chloé se baignait dans les fontaines, il jouait de la flûte à l'envi des pins que les vents faisaient résonner, elle chantait à l'encontre des rossignols à qui mieux mieux. Ensemble, ils chassaient aux cigales, prenaient des sauterelles, cueillaient les fleurs, croulaient les arbres, mangeaient les fruits. Et à la fin, se couchèrent tous deux sous une même peau de chèvre, nus à nu. Et l'or eût Chloé facilement été faite femme, si Daphnis n'eût craint de lui faire sang. De quoi il avait si belle peur, qu'appréhendant de n'être pas toujours maître de soi, souvent il empêchait Chloé de se dépouiller toute nue, tellement qu'elle-même s'en étonnait. Mais elle avait honte de lui en demander la raison. Il y eut durant cet été grande presse et pourchas amoureux autour de Chloé pour l'avoir en mariage, et venait-on de tous côtés la demander à Drias. Aucun lui portait des présents, et tous lui faisaient de grandes promesses, tellement que Nappé, mu d'avarice, lui conseillait de la marier et ne tenir point plus longtemps une fille si grande en sa maison. Que si on ne se hâtait de lui donner mari, elle pourrait à l'aventure bientôt, en gardant ses bêtes par les champs, perdre son pucelage et se marier pour des pommes ou des roses avec quelques bergers. Et, se disait Nappé, valait mieux, pour le bien d'elle et d'eux aussi, la faire maîtresse de la maison de quelques bons laboureurs, et prendre ce qu'on leur offrait qu'ils garderaient à leur propre fils, car non guère auparavant leur était né un petit garçon. Et Drias, lui-même quelquefois, se laissait aller à ses raisons, aussi que chacun lui faisait des offres bien au-delà de ce que méritait une simple bergère. Mais considérant puis après que la fille n'était pas née pour s'allier en paysannerie, et que s'il arrivait qu'un jour elle retrouvât sa famille, elle les ferait tous heureux, il différait toujours d'en rendre certaines réponses et les remettait d'une saison à l'autre, dont lui venait à lui cependant tout plein de présents qu'on lui faisait. Ce que Chloé, entendant, en était fort déplaisante, et toutefois fut longtemps sans vouloir dire à Daphnis la cause de son ennui. Mais, voyant qu'il l'empressait et importunait souvent, et s'ennuyait plus de ne rien savoir qu'il n'aurait pu faire après l'avoir su, elle lui conta tout. Combien ils étaient de poursuivants qui la demandaient, combien riches, les paroles que disait Nappé à cette fin de la faire accorder, et comment Drias n'y avait point consenti, mais remettait le tout aux prochaines vendanges. Daphnis, oyant telle nouvelle, à peine qu'il ne perdit sens et entendement, et se séant à terre, se prit à pleurer, disant qu'il mourrait si Chloé cessait de venir au champ garder les bêtes avec lui, et que non lui seulement, mais que les brebis et moutons en mourraient de déplaisir s'il perdait une telle bergère. Puis, ayant un peu pensé, il reprit courage et se mit en tête qu'il la pourrait avoir lui-même, s'il la demandait à son père, espérant facilement l'emporter sur tous les autres et leur être préféré. Une chose pourtant le troublait. L'amant n'était pas riche. Ce seul point lui affaiblissait fort son espérance. Toutefois, il se résolut, quoi qu'il en pût arriver, de la demander à femme, et Chloé même en fut d'avis. S'il n'en osa de prime abord rien dire à l'amant, mais découvrit plus hardiment son amour à Myrtal, et lui tint propos comme il désirait épouser Chloé. Myrtal, la nuit, en parla à son mari. Mais l'amant le trouva fort mauvais, et appela sa femme bête de vouloir marier à une fille de simple berger, tel gars à qui elle savait bien que les marques et enseignes trouvées quant à lui promettaient autre fortune, et qui, un jour ou l'autre, étant reconnu des siens, les pourrait, eux, non seulement affranchir de servitude, mais les faire mettre de meilleures et plus grandes terres que celles qu'ils tenaient comme serfs. Myrtal, toutefois, craignant que le garçon ait pris d'amour, s'il perdait ainsi tout espoir de ce que tant il désirait, ne fut capable de quelque funeste résolution, lui allégua d'autres motifs et prétextes de refus. « Nous sommes, se lui dit-elle, pauvres, mon enfant, et avons besoin d'une fille qui nous apporte, plutôt qu'à qui il faille donner. Au contraire, ils sont riches, eux, et s'ils veulent avoir un mari qui leur donne. Mais va, fais-t'en vers Chloé et elle envers son père, qui ne nous demande pas grand-chose et qu'il te la donne en mariage. Sans doute elle t'aime aussi, et elle aimera bien coucher avec toi, pauvre et beau, qu'avec pas un de ceux-là, qui sont riches et laids comme marmots. » Myrtal crut par ce moyen avoir doucement éconduit Daphnis, car elle tenait pour tout assurée que jamais Thryas n'y consentirait, ayant en main de plus riches parties qui lui offraient beaucoup de biens. Daphnis, quant à lui, ne se pouvait plaindre de la réponse, mais, se voyant si loin d'espérance, fit ce que les amants qui sont pauvres ont accoutumé de faire. Il se prit à pleurer et invoqua les nymphes, lesquels, la nuit en suivante, ainsi qu'il dormait, s'apparurent à lui en même forme et manière que la première fois. Et lui dit, la plus âgée d'elles, « À un autre dieu touche le soin du mariage de Chloé. Nous te donnerons, nous, de quoi gagner Dryas. » Le bateau des Bétimniens, dont les chèvres broutèrent le lien l'année passée, fut ce jour-là par les vents emporté bien loin de terre, mais d'autres souffles la nuit le jetèrent contre la côte où il périt et tout ce qui était dedans, sinon qu'avec le débris l'onde poussa sur la grève une bourse de 300 écus, et est là, couverte d'algues près d'un dauphin mort, qui a été cause que nul passant ne s'en est encore approché, fuyant un chacun la puanteur de cette pourriture. « Vas-y, prends la bourse et la donne. Ce sera assez à cette heure pour montrer que tu n'es point pauvre. Mais un temps viendra que tu seras riche. » Aussitôt dites ces paroles, elles disparurent avec la nuit. Et le jour commençant à poindre, Daphnis se leva tout joyeux, chassa ses bêtes aux champs avec les sons accoutumés, et ayant baisé Chloé, salut les nymphes, s'encourut au bord de la mer, comme s'il eût voulu s'asperger d'eau marine. Là, se promenant sur le sable, il allait partout, regardant s'il trouverait point ses 300 écus, à quoi il n'eut pas grand-peine, car la mauvaise odeur du dauphin corrompu lui donna un continent au nez et lui servit de guide, jusqu'au lieu où, ayant écarté les algues, il trouva dessous la bourse pleine qu'il enleva et la mit dans sa panetière. Mais il ne partit point de là qu'il n'eût adoré et remercié les nymphes et même la mer, car, tout berger qu'il était, il aimait la mer alors, et elle lui semblait douce et bonne, plus que la terre, pour ce qu'elle l'aidait à parvenir au mariage de son ami. Étant saisi de cet argent, il n'attendit pas davantage. Ainsi, s'estimant le plus riche, non pas seulement de tous les paysans de l'entour, mais aussi de tous les vivants, s'en alla droit à Chloé, lui conta le songe qu'il avait eu, lui montra la bourse qu'il avait trouvée, et lui dit de garder leur bête jusqu'à ce qu'il fût de retour. Puis prit sa course vers Dryas, lequel il trouva battant le blé dans l'air avec sa femme nappée. S'il lui commença un brave propos en disant ces paroles. « Donne-moi Chloé en mariage. Je sais bien jouer de la flûte. Je sais bien besogner aux vignes et aux arbres, labourer la terre, vanner le blé d'auvent. Et comment je sais gouverner les bêtes. Elle-même Chloé te le peut témoigner. On me bailla au commencement 50 chèvres. Je les ai fait multiplier 2 fois autant, et si élever de beaux et grands boucs jusqu'à 10, là où premièrement ne n'en y a que 2, nous fallait la plupart du temps mener nos chèvres ailleurs. Et si je suis jeune, et votre voisin, de qui nul ne se saurait plaindre, une chèvre m'a nourri comme Chloé une brebis, et bien que pour tant de choses, je dusse être préféré aux autres qui la demandent, encore te donnerai-je plus qu'eux. Ils te donneront, eux, quelques chèvres, quelques moutons, quelques couples de bœufs galeux, du blé de quoi nourrir 3 poules. Mais moi, Voici 300 écus. Seulement, je te prie que personne n'en sache rien, non pas même mon père Lamont. » En disant ces mots, il lui délivra l'argent et le baisa quand et quand. Dria Sénapé, voyant si grosse somme de deniers qu'ils n'en avaient jamais tant vu ensemble, on lui promirent aussitôt qu'il aurait Chloé pour sa femme et dire qu'il ferait bien trouver bon ce mariage à Lamont. Si demeurèrent Daphnis et Nappé à chasser les bœufs sur l'air et faire sortir avec la herse le blé des épis, pendant que Drias, ayant premièrement serré la bourse et l'argent, s'en alla de vers Lannon et Myrtal pour leur demander, à vrai dire, au rebours de la coutume, leur jeune garçon en mariage. Il les trouva qu'ils mesuraient l'orge après l'avoir vanné, et se plaignait qu'à grand-peine en recueillait-il autant comme ils en avaient semé. Il les réconforta, disant qu'ainsi était-il partout, puis leur demanda Daphnis à Marie pour Chloé, et leur dit que combien que d'autres lui offrirent et donnassent beaucoup pour l'accorder, il ne voulait de rien avoir, plutôt est prêt à leur donner du sien. Car ils ont, disait-il, été nourris ensemble, et gardant leurs bêtes au champ, se sont pris l'un à l'autre en telle amitié qu'il serait maintenant malaisé de les séparer, et s'y étaient bien d'âge tous deux pour coucher ensemble. Il leur alléguait ses raisons et assez d'autres, comme celui qui, pour loyer de les persuader, avait reçu 300 écus. Lamont, ne pouvant plus s'excuser sur sa pauvreté, puisque les parents même de la fille l'en priait, ni sur l'âge de Daphnis, car il était déjà en son adolescence bien avant, n'osa néanmoins dire encore à quoi tenait qu'il y consentit, qui était que tel parentage ne convenait point à Daphnis. Mais, après y avoir un peu de temps pensé, il lui répondit en cette sorte: « Vous êtes gens de bien de préférer vos voisins à des étrangers, et de n'aimer point plus la richesse que l'honnête pauvreté. Veuille, Pan et les nymphes, vous a récompensé. Et, quant à moi, je vous promets que j'ai autant d'envie comme vous que ce mariage se fasse. Autrement serais-je bien insensé, me voyant déjà sur l'âge, ayant plus besoin d'aide que jamais, si je n'estimais un grand heure d'être allié de votre maison. Et si est Chloé telle qu'on la doit souhaiter, belle et bonne fille, et où il n'y a que redire. Mais étant serf comme je suis, je n'ai rien dont je puisse disposer, il faut que mon maître le sache et qu'il y consente. Or, donc, différons, je vous prie, les noces jusqu'aux vendanges, car il doit, au dire de ceux qui viennent de la ville, se trouver alors ici, et lors, ils seront mariés femmes, et en attendant, s'aimeront comme frères et sœurs. Mais veux-tu que je te dise, tu prétends pour gendre Drias un qui vaut trop mieux que nous. » Cela dit, il le baisa et lui présenta à boire, car il était déjà près de midi, et le convoya au retour quelque espace de chemin, lui faisant caresses infinies.